juste d'être notre dernier jour concernant le vocabulaire chrétien, on verra. Sinon, nous commencerons après une autre série intitulée Béréen l'explorateur. Nous savons qui étaient les Béréens, c'était les gens d'une ville qu'on appelle Bérée et qui étaient très attachés à la parole, au point que même si c'est l'apôtre Paul qui prêchait, il vérifiait dans les Écritures pour voir si les choses étaient exactes. Et dans cet esprit-là, nous voulons fouiller dans les Écritures pour sortir quelques pépites, quelques versets qui ont des vérités puissantes, mais qui sont cachées. Voilà, c'est pourquoi on a dit l'explorateur, parce que nous allons chercher ce que peut-être on ne connaissait pas avant, ce qu'on négligeait, et sortir ce genre de versets et en parler afin qu'il nous édifie. Donc, nous lançons l'appel à tous ceux qui auraient des passages comme ça, des versets importants, des versets qui touchent, qui ont des vérités puissantes, mais qui ne sont souvent pas utilisées, à nous les faire parvenir afin que nous partagions ça tous ensemble. Voilà, donc nous continuons sur le vocabulaire chrétien. Nous avions parlé de l'onction et nous finissons la lettre O avec les œuvres. Et il est écrit dans Éphésiens 2, chapitre 8 à 10, Éphésiens 2, il est écrit ceci, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Voilà, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voilà, donc dans le milieu chrétien, il y a un terme qui est souvent utilisé, c'est le terme les œuvres. Donc les œuvres, c'est souvent utilisé en opposition avec la grâce. Donc la grâce, c'est le fait que Dieu nous sauve. Il y a un micro qui est allumé, qui souffle. La grâce, c'est le fait que Dieu nous sauve et il le fait gratuitement par sa bonté et sa miséricorde. C'est ça la grâce. Et les œuvres, c'est le fait de vouloir satisfaire Dieu en faisant beaucoup de choses, en faisant des choses. En ayant une méthode, en faisant beaucoup d'activités, en faisant de telle ou telle autre manière. Ça, c'est les œuvres. Et il nous est dit que non seulement les œuvres ne peuvent pas nous sauver parce que elles ne changent pas notre intérieur, elles ne changent pas notre nature. Or, au ciel, c'est la nature divine seule qui peut y entrer. Mais les œuvres sont encore une occasion de chute pour nous. Voilà, c'est ce qu'il nous est dit. C'est écrit, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est point par les œuvres, verset 9, afin que personne ne se glorifie. Donc, si Dieu nous sauvait par les œuvres, ça empirerait notre nature. parce que ça nous pousserait à nous glorifier et donc à devenir encore plus différent de lui, plus loin de lui. C'est ça qui est grave. Donc non seulement que réellement ça ne peut pas sauver, parce que même quand tu fais le bien, même quand tu donnes la nourriture aux pauvres, même quand tu soignes les malades, ça ne change pas l'intérieur qui est en toi, ça ne change pas ta nature. C'est des bonnes, c'est bien, mais ça ne te change pas. Le changement vient de la grâce de Dieu à travers sa parole et son esprit. C'est pourquoi c'est écrit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et tout ça est le fruit de l'amour et de la grâce de Dieu. Alors que les œuvres, même si elles sont de bonnes choses, parce que prier c'est bien, méditer la parole c'est bien, donner, aider les pauvres c'est bien, avoir un rôle à jouer dans l'église c'est bien, mais ce n'est pas ça qui change la nature. Le changement de la nature vient de la nouvelle naissance, de l'action divine de Dieu par l'eau et l'esprit. Donc la parole et l'Esprit Saint. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème. Nicodème, certainement, c'était quelqu'un qui faisait beaucoup d'œuvres, qui lisait beaucoup la parole. C'était un docteur. Mais Jésus lui a dit, ce n'est pas ça qui va te sauver, Nicodème. Ce n'est pas ça qui va t'amener au ciel. C'est la nouvelle naissance par ma parole et par l'Esprit Saint. C'est ça qui peut te sauver. Et ça, c'est un cadeau de Dieu que tu dois tout simplement accepter. C'est tout. Mais ce n'est pas toi qui vas produire cela. C'est ça le problème qu'on rencontre dans l'Église. Et quand on connaît ça, on est vraiment très près de la vérité. Parce que les œuvres remplissent l'univers, remplissent la terre. Tout dans notre monde et dans la vie humaine est lié aux œuvres. Et les œuvres vont conduire, comme nous venons de lire, à la glorification de l'homme. C'est pourquoi quand on est à l'école, il y a un premier de classe, deuxième de classe, troisième de classe. Quand on est dans l'athlétisme, il y a un premier, il y a un deuxième et un troisième. Quand on est dans le football, il y a un champion, il y a un vice-champion. Donc, quand on est au travail, il y a des bons travailleurs comme des mauvais, et que les bons reçoivent des promotions. Donc, l'humanité est remplie de la logique des œuvres, c'est-à-dire faire des choses pour être le premier, pour être accepté, pour être reconnu. L'humanité fonctionne avec ça, c'est vraiment profond dans l'humanité. Et recevoir la grâce de Dieu ne cadre pas avec la logique humaine, la logique du monde, la logique naturelle. D'ailleurs, même même en biologie, dans les sciences, on parle de Darwin, c'est la sélection naturelle, c'est les plus forts qui survivent et les faibles sont massacrés, sont éliminés. C'est toujours cette logique-là qui règne dans l'esprit de l'homme. Mais Dieu nous amène une logique nouvelle, celle de la grâce, celle de la gratuité, celle de la bonté, celle de l'amour. Et c'est difficile à l'homme, parce qu'il est tellement habitué aux œuvres, d'accepter le système de la grâce. Il va toujours ramener les choses aux œuvres. Toujours ramener aux œuvres. Et l'apôtre Paul, ça a été son combat de presque toute sa vie, de combattre la logique des œuvres. Parce que vous vous souvenez comment Paul a été sauvé. Paul a été sauvé alors qu'il s'en allait persécuter les chrétiens, alors qu'il s'en allait les emprisonner. C'est là que sur le chemin de Damas, on le sauve. Mais Paul a bien compris la logique de la grâce. Parce que tu te prépares à faire du mal à quelqu'un et la personne t'adopte comme son fils. À partir de là, Paul a compris que le salut est vraiment un cadeau. Donc lui, sa compréhension a été nette, claire. Alors que ça n'a pas été simple pour les autres, les apôtres, les autres, qui étaient déjà dans une logique d'orgueil juif. Donc comme quoi le salut, ce n'est que pour eux. Ils étaient déjà dans cette logique-là. Vous vous souvenez, Jésus a eu une fois un débat avec les Juifs. Il leur a dit dans Jean chapitre 8, « Vous vous dites, vous êtes fils d'Abraham, mais vous ne vous comportez pas comme Abraham. Votre nature ne ressemble pas à Abraham. » Donc, les Juifs avaient cet orgueil-là de dire, « Nous sommes les fils d'Abraham, nous sommes les héritiers de Moïse. » Et Jésus leur dit, « Mais non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas faire les choses telles que Moïse vous a dites. Ces œuvres qui vont vous qualifier, c'est la nature. » Et vous voyez bien que, le Seigneur les compare à la nature profonde d'Abraham. Et quelle était la nature profonde d'Abraham? Abraham a été sauvé par la foi et non par les œuvres. C'est par la foi, c'est écrit dans Genèse 15, 6. Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Donc c'est quand Abraham a cru en Dieu que Dieu l'a considéré juste. C'est pourquoi Jésus dit, vous n'êtes pas fils d'Abraham, vous ne vous attachez pas à la foi en Dieu, mais en vos capacités de satisfaire Dieu. Vous vous attachez à votre héritage physique au lieu de vous attacher à votre appel divin. Vous vous attachez au fait que vous êtes des descendants physiques d'Abraham au lieu de vous attacher au spirituel qu'Abraham est censé vous apporter, la proximité avec Dieu. La recherche de Dieu, vous vantez d'être des descendants physiques d'Abraham. C'est ça les œuvres. Et Paul a bien compris qu'il était sauvé par grâce. C'est pourquoi il en parle, il explique. Puisque lui, il se battait, il combattait l'œuvre de Jésus. Il combattait les chrétiens. Et sur le chemin de Damas, il entend la voix du Seigneur qui lui dit, il voit d'abord une grande lumière qui le fait tomber et il entend la voix qui sort de la lumière pour lui dire, mais Paul, Saul, pourquoi tu me persécutes? Il a dit, mais qui es-tu, Seigneur? Donc, il a appelé Seigneur parce qu'il a compris que cette lumière-là, c'était la lumière divine. Mais il ne comprenait pas comment lui, le Seigneur, peut le frapper. Il dit, mais qui es-tu, Seigneur? C'est quel autre Seigneur, là? Le Seigneur lui dit, mais je suis Jésus que tu persécutes. Paul l'a compris. Mais quelle surprise! Alors que il comprend ça, il dit, alors, mais que dois-je faire, Seigneur? Il dit, mais va dans la ville, quelqu'un te dira ce que tu as à faire. Et qu'est-ce qu'on vient lui dire? Désormais, tu es serviteur de Jésus. On le baptise. Donc, Paul a été marqué dans sa vie. Il sait bien qu'on est sauvé vraiment par grâce. Parce que dans un autre endroit, il dit, moi j'étais le persécuteur de l'Église, j'étais un mauvais, mais Dieu a eu pitié de moi. Il se dit même, je suis l'avorton des apôtres. Donc un apôtre, en quelque sorte, qui a eu une mauvaise naissance. Mais Dieu a eu pitié de moi, il a fait de moi ce qu'il a voulu. Donc Paul était très conscient de la grâce, alors que ses confrères, ses amis, ses frères juifs étaient plus dans la logique de continuité. Et c'est pourquoi Jésus disait qu'il fallait des outres neuves pour le vin nouveau. Donc il fallait que ces gens-là renouvellent leur logique. Et c'est ce qu'il a dit aussi à Nicodème dans Jean chapitre 3, « Tu dois naître de nouveau. » Donc les œuvres ne peuvent pas sauver parce que les œuvres ne peuvent pas changer la nature de la personne. On a vu parfois dans certains documentaires animaliers, un lion protéger le petit d'une antilope sans manger ce petit-là pendant plusieurs jours. Le lion n'a pas, parce que c'était comme un enfant. Donc, les enfants ont une certaine innocence qui empêche qu'on leur fasse du mal. Et ce lion-là n'a pas touché à cette antilope. Mais est-ce que ça veut dire que ce lion-là est devenu herbivore? Ah non! Donc, s'il voit un autre animal, il va le tuer, il va le manger. Donc, les bonnes œuvres ne vont pas changer la nature profonde. C'est pourquoi elles ne peuvent pas sauver. Et deuxièmement, la logique des œuvres va amener l'orgueil. Parce qu'on se dira, c'est grâce à tel acte que Dieu me considère juste, et ça va pousser à la glorification personnelle. Et donc c'est pourquoi nous devons renoncer à ce moyen-là pour être sauvés. Nous devons accepter la grâce de Dieu. Nous devons accepter le pardon de Dieu donné gratuitement. Nous devons accepter ça. Et quand nous acceptons ça, forcément, bien-aimé, ça va changer notre regard sur tous les méchants qui nous entourent. Quand nous acceptons ça, forcément, nous serons capables d'expérimenter la nature divine parce que nous aurions le véritable amour qui ne demande pas un retour, qui ne demande pas une ressemblance. Vous savez, on a l'habitude de dire dans le monde, ceux qui se ressemblent s'assemblent. Donc les gens, voilà, les riches veulent être avec les riches, les pauvres avec les pauvres. Donc on veut être avec quelqu'un qui va nous ressembler, qui va nous renvoyer notre image, qui va nous redonner la même chose. Or, la logique de la grâce ne tient pas, ne va pas avec ça, parce que on fait grâce à quelqu'un qui ne le mérite pas. C'est grâce, c'est la gratuité. Et quand on est dans cette logique-là, on peut aussi aimer les autres, on peut aussi pardonner, parce qu'on sait que Dieu sauve tout le monde par grâce, moi le premier. Alors, donc, dans ce cas, je n'ai plus à garder rancune, je n'ai plus à considérer que l'autre est mauvais et donc je le bloque quelque part. Non, Dieu sauve par grâce et il va sauver par grâce tout le monde. Donc, c'est ça qui nous permet après d'avoir une véritable nature qui est semblable à celle du Seigneur. Donc, c'est ça, grâce et œuvre. Et d'ailleurs, nous allons lire 1 Corinthiens 13 qui nous en parle d'une manière indirecte. 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Donc le frère est clair, il nous donne une série de bonnes œuvres excellentes, même œuvres spirituelles, parce que parler en langue, c'est spirituel. Il dit même quand tu produis de bonnes œuvres spirituelles, tu parles la langue, tu guéris les malades, tu livres même ton corps, parce que là on va dire, mais les autres œuvres, ça nous... On va en profiter plus tard. Quand tu fais du bien aux gens, bon, tu peux en profiter pour ta célébrité, tu peux en profiter pour un retour d'une manière ou d'une autre. Mais oui, mais quand quelqu'un livre quand même sa vie, est-ce que ce n'est pas l'amour suprême? Mais non, ce verset nous dit non. Non, si ce n'est pas fait à travers un changement profond que Dieu seul peut opérer. Donc si c'est fait juste d'une manière extérieure, ça ne sert à rien parce qu'au ciel, c'est ce changement profond qui ira au ciel. Donc l'extérieur n'ira pas. Les œuvres seront jugées. Mais la nature nouvelle ne sera pas jugée, elle sera acceptée par Dieu. La nature que seul Dieu donne lorsqu'on accepte gratuitement qu'il nous change, qu'il nous sauve. Donc le frère va loin, même quand tu te donnes, tout ce que tu peux faire, si tu ne le fais pas dans un esprit d'amour, ça ne sert à rien parce que ce n'est pas issu d'un profond changement lié à la nouvelle naissance. Oui.
Oui, je voudrais comprendre ce passage-là parce que quand même, quand les gens disent quand il y a une personne qui meurt pour la France, c'est l'amour de la France. Et quand une personne meurt et une maman qui veut sauver son enfant. C'est quand même, il y a l'amour qui quand il y a du feu, c'est l'amour qui est derrière ça quand même, les gens qui se donnent, les héros, tout ça là. c'est quand même c'est l'amour.
Oui, mais est-ce que cette maman-là va faire ça pour un autre enfant? Donc, c'est ça. Donc, comme on vient de dire, les bonnes œuvres ponctuelles, comme l'exemple du lion que j'ai cité, ce lion-là, en ne tuant pas l'enfant de l'antilope, c'est pas, c'est pas amour. C'est que, il voit que c'est un enfant qui erre, qui ne voit pas ses parents, et le lion ne l'a pas tué. On a vu ça à la télé. Mais est-ce que ce lion-là va à tout moment se comporter comme ça? Ah, c'est ça. C'est pourquoi les bonnes œuvres ne peuvent pas sauver. Parce que comme ce n'est pas issu de la nature profonde, ça ne peut pas se répéter indéfiniment. Mais or, quand c'est lié à la transformation profonde, ça peut se répéter tout le temps. Donc c'est ce que le Seigneur attend. Donc tout ce que tu cites là, c'est bien. Mais est-ce que ça peut sauver? Non, parce que c'est parfois lié aussi à un intérêt, parce que c'est mon enfant. Et quand c'est l'enfant d'autrui, on ne le fait pas. Voilà, donc il y a plein de choses qu'on pourrait dire là-dessus. Toujours est-il que du moment que ce n'est pas le changement total de la nature, ça ne peut pas aller au ciel. Donc c'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème, pour aller au ciel, il faut changer de nature. Et seul Dieu peut faire ça. Il faut être sauvé par grâce. Et quand on est sauvé par grâce, Dieu change ta nature. Et tu peux hériter gratuitement du ciel par grâce. C'est un cadeau. C'est un cadeau de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as été champion dans quoi que ce soit, c'est parce que Dieu le veut et que toi, tu veux de Dieu. C'est ça là. Et c'est beau, c'est extraordinaire. Quand on est conscient de ça, on ne peut qu'en échange s'offrir soi-même. C'est ce que notre frère Paul dit. Vous savez, quelqu'un qui est, on a l'habitude de croire que lorsqu'on prend conscience de la grâce, on va être négligent spirituellement, on va dire on est sauvé par grâce. C'est faux. Moi, au contraire, quand on est sauvé par grâce, ça crée un grand sentiment de reconnaissance. Tu te dis, mais je ne devais pas être sauvé. Il y a un grand sentiment de reconnaissance et on a envie de se donner aussi pour la personne qui nous a fait cette grâce-là. On a envie, de laisser notre vie au service de la personne qui nous a sauvés. Et donc, quand on pense que les gens sont devenus négligents par grâce, parce qu'ils n'ont pas compris, il y en a qui n'ont pas, ce n'est pas qu'ils n'ont pas compris qu'ils sont sauvés gratuitement, mais ils n'ont pas compris que leur état était grave. C'est ça. Ils acceptent bien le salut gratuit, mais ils n'ont pas saisi que leur état était très grave. Parce que quand quelqu'un saisit que son état était très grave, comme Paul a saisi, parce que Paul était conscient qu'il combattait Jésus, d'ailleurs Jésus lui a dit, mais tu me combats moi. Mais donc, quand quelqu'un saisit que son état était grave, sa posture était difficile, alors la personne devient réellement très, très, très reconnaissant. Et ainsi, quand on est dans la grâce, on ne tombe pas dans le piège de l'orgueil que les œuvres produisent. Parce que les œuvres, forcément, la Bible est claire, hein, les œuvres, forcément, feront que l'homme se glorifiera. Forcément. Et c'est la grâce qui enlève l'orgueil qui est la racine, qui est l'origine du mal. Parce que Adam, Satan, son problème a été de rivaliser avec Dieu, d'être supérieur à Dieu. C'est l'orgueil. Et qu'est-ce qu'il fait? Il propose à Adam la même chose. Être supérieur, être indépendant, rival de Dieu. C'est l'orgueil. Et donc, le salut par grâce nous sauve de ce problème-là. C'est le vrai problème de l'homme. Or, le salut par les œuvres va continuer à faire persister ce problème qui est le problème d'orgueil, de se croire fort, de se croire bon, de se croire les autres inférieurs à soi. Mais le salut par grâce nous fait passer par la même porte que tout le monde. Par la même porte que tout le monde, on ne se croit pas grand parce qu'on est sauvé de la même manière que tout le monde. Donc c'est pourquoi le salut par grâce, c'est ça le vrai salut. Donc, on ne doit pas tomber. On doit aimer ce salut par grâce. Et je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent que considérer qu'on est sauvé par grâce, ça va conduire la paresse. Pas du tout. Ça va conduire à l'esprit de reconnaissance. À moins de ne pas avoir saisi ce salut-là. Compris ce salut-là. Oui.
Oui, pasteur. Je voulais que tu m'expliques. Alors, tu dis qu'en fait, on est sauvé par grâce. Mais quand on est de nouveau, on est sauvé par grâce. Donc, tout ce que tu expliques, c'est-à-dire que cet état d'orgueil ou bien de jalousie, normalement, ne devrait plus être en nous.
Oui, puisqu'on reçoit la nouvelle nature.
Alors, mais pourquoi encore dans le milieu chrétien, enfin, pourquoi encore entre chrétiens, je dirais même, on tombe dans les murmures, dans la critique, dans...
Il y a deux possibilités. Il y a des faux chrétiens. Deuxième possibilité, nous gardons la liberté de décider de vivre la nature nouvelle ou l'ancienne. Cette liberté-là, Dieu ne nous a pas confisqué ça. Et donc, à partir de là, nous devons sans cesse confier cette liberté à Dieu pour dire, non point ma volonté, mais ta volonté. Donc, si on ne fait pas ça, on est conduit naturellement à être autonome et à faire notre volonté, ce qui nous conduit à agir par la chair.
Alors, quels sont les moyens de reconnaître qu'on arrive à être dans la critique, par exemple, comment on arrive plus à saisir cette grâce? C'est ça que je voulais dire. On peut, par exemple, on se dit être dans la critique, mais on ne se rend même plus compte qu'on est dans la critique. C'est-à-dire qu'on parle, on parle.
Parce qu'on est tombé dans la logique des œuvres. On a oublié qu'on est sauvé par
mais
grâce.
Mais comment savoir que. Qu'est-ce qui va faire en nous qu'on va se rendre compte que. Bah là, il y a une petite déviance.
Les
quoi.
Prédications, l'Esprit Saint, la Bible, quand on va tomber, Dieu va nous parler par un verset biblique, on va se rendre compte que. Mais c'est surtout lié à l'oubli. Parce que le système des œuvres est tellement ancré en l'homme. Parce que dans toutes les dimensions de vie humaine, on retrouve la logique de la compétition et des œuvres. Il y a des compétitions même de beauté. Aujourd'hui, même à la télé, j'ai vu une femme là, elle-même, je la vois mal habillée, mais elle fait des compétitions de vêtements, une Christine, quelque chose comme ça là. Donc, il y a des compétitions de tout. Donc, c'est tellement dans l'homme que l'homme, que quand tu n'es pas vigilant, tu amènes cette compétition dans la vie chrétienne, dans les choses de Dieu. Et c'est naturel. C'est naturel. On doit lutter contre ça. On doit se souvenir sans cesse que nous sommes sauvés par grâce. Merci Seigneur. Tu nous as sauvés par grâce. Il faut s'en souvenir tout le temps. Tout le temps. C'était le travail de Paul. Oui.
Oui, tu as parlé tout à l'heure des personnes qui sont dans le système, de dire que le fait d'être dans la grâce, ça nous emmènera à devenir paresseux. Mais quelque part, lorsqu'on est dans la grâce, automatiquement, on aura la nature de Dieu en nous, donc on produira des bonnes œuvres, qu'on le veuille ou non.
Oui.
Donc cette nature des...
Non, pas qu'on le veuille ou non, donc ça va, c'est une conséquence, voilà. Mais après, si on refuse, on ne va pas produire.
Oui, voilà, comme tu as dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a la liberté. Mais ces personnes-là, elles se trompent quelque part quand elles disent qu'on devient fainéant, on ne peut pas devenir fainéant.
Ils pensent, voilà, ils se disent, quand quelqu'un va se dire, bon, je suis sauvé par grâce, forcément, il ne va plus rien faire. Ben, ils se trompent parce qu'ils n'ont pas compris que le salut par grâce est un don. Ce n'est pas un ticket pour le ciel. Au fait, ces gens-là se figurent que être sauvé, c'est avoir un ticket pour le ciel. Ah non, être sauvé, les gens qui font les enseignements de base, c'est un cadeau. Et dans ce cadeau-là, il y a aussi la nouvelle naissance, il y a la transformation. Dans ce cadeau, il y a la promesse que le Saint-Esprit te redressera, te conduira dans toute la vérité. C'est un ensemble, ce n'est pas juste un ticket. Et c'est pourquoi ils se disent, quand quelqu'un sait qu'il va aller au ciel, donc il va vivre par la chair en attendant d'aller au ciel. C'est faux parce que dans le salut, il y a aussi la nouvelle nature qui n'aime plus le mal. Hein. Moi, nous, on a vu des gens, Ben, ils sont seuls, il n'y a pas de témoins, mais ils n'arrivent pas à faire le mal. Parce qu'il y a une nouvelle nature. Il y a des gens parfois qui ont voulu faire le mal, ils ne trouvent pas de... Vous savez, parfois on a envie de faire quelque chose de mal, mais tu ne trouves pas de force pour faire le mal. Voilà, parce qu'il y a la nature divine en toi. Pourtant, tu aimerais, donc en toi, il y a un... Il faut que je fasse quelque chose de mal, mais tu cherches la force. Tu as dit, dès que je vais rencontrer cette personne, je veux la taper. Mais devant la personne, tu cherches la colère, ça ne vient pas. Et tu n'arrives plus à rien faire. C'est ça la nouvelle nature. C'est ça aussi la grâce. C'est un cadeau total. Ce n'est pas juste un ticket qu'on te donne pour aller au ciel. Et ces gens-là ont compris le salut comme un ticket. Ah non, c'est tout un ensemble que tu reçois. Et en même temps, avec la permission céleste. Quoi. Oui.
Il y a une question de la sœur Mylène. L'apôtre Paul dit qu'il a plus travaillé que les autres apôtres. Non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit. Est-ce que ça ne peut pas être l'orgueil de dire que Dieu a agi plus en lui qu'à d'autres?
Mais tu as fini, non? Tu as lu la suite, non? Toi-même, tu as répondu, puisque c'est dit non pas moi, mais la grâce de Dieu.
Justement, donc.
Oui, mais qu'elle-même parle aussi. Si, non,
elle n'a pas de voix. Elle a... Voilà. Voilà.
Que Dieu soit béni. Oh, okay. Donc, ok. Donc, non, ce n'est pas, comment dire, de l'orgueil. C'est la vérité. Toute la vérité, que ce soit le fait qu'il a travaillé plus que les autres, c'est la vérité. Mais il y a aussi la vérité que ce n'est pas son travail personnel, c'est la grâce de Dieu en lui. Voilà. Donc l'humilité n'empêche pas la vérité. Quand Jésus dit « Qui me convaincra de péché ?» ce n'est pas qu'il s'enorgueillit, c'est tout simplement la vérité. Il veut dire « Mais quand je vous dis que je suis celui qu'il faut suivre, mais comprenez même par rapport au péché. Donc c'est la vérité. Qui va me convaincre de ça? Oui.
Oui, donc elle dit, quand lui dit que pas la grâce, donc est-ce qu'il dit, c'est pas l'orgueil de dire que Dieu a plus travaillé avec lui qu'avec d'autres?
C'est pas l'orgueil. C'est un développement. Il y a un développement. Il y a une discussion sur certains points. Et Paul explique aux gens qui l'écoutent, aux gens qui le contestent, il dit, mais si vous êtes honnête, si vous êtes sincère, vous voyez bien que le Seigneur a travaillé, parce que les gens ne voulaient pas le reconnaître comme apôtre. Il dit, mais si vous êtes sincère, voyez bien le travail fait par Dieu. Et Jésus a employé la même rhétorique que Paul pour dire aux gens, si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins par les œuvres qui se font. Quand même, au fait, Paul les ramène à l'évidence. C'est évident. Au fait, même si ma personne n'inspire pas, peut-être que Paul ne mesurait pas 2 mètres, peut-être qu'il n'avait pas de cheveux bouclés, mais il dit, mais même si ma personne n'inspire pas la puissance ou la force comme ça physique, mais regardez au moins le travail que Dieu a fait avec moi. Donc soyez vrais, soyez sincères. Et Jésus a utilisé la même logique en disant, mais si vous ne croyez pas en moi tel que je suis, humain, en apparence comme ça, mais croyez au moins à partir des œuvres que Dieu fait à travers moi. Donc c'est juste ramener les gens à l'évidence. Vous savez, il y a des gens, il faut les ramener jusqu'à l'évidence parce que il y a beaucoup de choses que nous devrions saisir indirectement. Mais il y en a même, il y en a qui refusent de saisir les choses indirectement. Et on est obligé de leur dire, quitte à passer pour des orgueilleux, mais on leur dit les choses pour que ça devienne très évident pour eux, qu'ils aient plus d'excuses. C'est évident, mais regardez au moins les œuvres que Dieu fait avec moi. Il a fait même plus qu'avec les autres. Mais je vous dis, je le dis pas dans le sens que c'est moi qui ai fait, mais c'est Dieu qui a fait. Voilà, donc il reste dans l'humilité, tout en disant la vérité qui était nécessaire pour fermer la bouche de ces personnes-là, pour les amener à réfléchir, à accepter l'évidence. Oui.
Merci. Je me suis souvenu de ce passage dans Jacques 2, verset 20, déjà 14, qui nous dit ceci. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Ce qui peut paraître une contradiction à ce qu'avait annoncé Paul, ce qui peut paraître, je dis bien, mais en réalité, c'est plutôt une conséquence en fait de la foi, de la grâce.
Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. La grâce est un changement total qui va t'amener à être comme Dieu et à produire des bonnes choses.
Des actes, voilà.
À produire des bonnes œuvres. Voilà.
Qui donc, sont plutôt des conséquences de...
De la grâce.
De la grâce.
Voilà. Donc, parce que les gens qui pensent que, en insistant sur la foi, mais on va pousser les gens à dire, bon, on est sauvés, on a le ticket, on fait ce qu'on veut. Non, on doit leur dire, comme Jacques rajoute là, que si tu es sauvé par la foi... Mais ça se démontrera par tes œuvres. Ça se verra par le changement de nature. Mais ce ne sont pas ces œuvres que tu vas faire qui vont te sauver, parce que tu as été déjà sauvé avant par la foi. Maintenant, comme tu es devenu une nouvelle nature, on verra la réalité. C'était une réponse à toutes sortes de théoriciens qui restaient charnels tout en se disant chrétiens et en se disant sauvés par la foi. Jacques dit, mais non, le vrai salut produit des œuvres. Voilà, donc, et c'est pourquoi il finit par leur dire, montrez-moi votre foi sans les œuvres, moi je vous montrerai ma foi avec les œuvres. Parce que la vraie foi produira les œuvres. Donc c'est une question d'ordre. Les œuvres ne sont pas mauvaises, mais elles suivent la foi. Et alors que certains pensent que les œuvres doivent être avant. Non, c'est la foi d'abord, et Dieu nous change, nous recevons la grâce de Dieu, et cela produit une vie nouvelle, cela produit un changement. Donc quelqu'un qui va dire, bon, comme on est sauvé par les œuvres, bon, moi je... aujourd'hui on entend beaucoup de langage chez les escrocs chrétiens. Dieu seul connaît les cœurs. Oh, bien aimé, on n'est pas là pour discuter des cœurs. Nous, on discute de ce qu'on voit. Pourquoi toi, tu nous ramènes au cœur? Si on te dit que tu as volé, défends-toi sur le vol. Mais toi, on t'a attrapé en train de voler. Mais Dieu seul connaît le cœur. Ah, mais non, nous, on ne voit pas le cœur. On ne connaît pas le cœur. On ne discute pas sur le cœur. On discute sur les actes. Parce que nous, les humains, le seul moyen de discussion, c'est ce qu'on voit. Tout ce qu'on ne voit pas, ça appartient à Dieu. Maintenant, se défendre en disant « Dieu seul connaît le cœur », c'est devenu un moyen d'échapper à la vérité, à la réalité. Donc, quand on nous a attrapés, si nous pensons qu'on ne nous a pas attrapés, disons plutôt « Dieu montrera la vérité, Dieu manifestera la vérité ». Mais se réfugier sous le prétexte que Dieu connaît le cœur, c'est une fuite, parce que Dieu va amener les choses à la visibilité. C'est ce qui est écrit dans Marc, chapitre 4, verset 22. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Donc, au lieu de se défendre comme ces chrétiens escrocs, il a même dit que, d'ailleurs, le corbeau, il est noir, mais en dessous, il est blanc. Bon, bien aimé, tous. Donc, c'est des excuses. C'est des excuses. Donc, si on a à nous défendre, on n'a pas à dire « Dieu connaît le cœur ». On doit dire tout simplement « Dieu démontrera la vérité ». Voilà. Dieu est capable de démontrer la vérité. Que ça ne soit, que ça reste pas caché, il démontrera ça. Dieu justifie. Voilà, c'est très important. Et donc, la foi, d'accord, mais cette foi finit par la production des œuvres liées à la nouvelle nature qu'on vient de recevoir. Oui, oui.
Je voudrais intervenir aussi par rapport à un élément qu'avait évoqué la sœur Grâce tout à l'heure, par rapport à certains comportements qu'un chrétien peut avoir. Et je me souviens une fois de plus de ce passage dans Jacques chapitre 4, verset 7, qui était souvent affiché ici. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » C'est vrai que lorsqu'on se convertit, on peut être sujet à des tentations. Il peut nous arriver peut-être de critiquer sans le vouloir, peut-être consciemment ou inconsciemment. Mais je crois que ce passage est vraiment un encouragement de la part du Seigneur, c'est-à-dire que lorsque tu te surprends en train de peut-être de critiquer ou de penser du mal de quelqu'un, tout de suite, tu dois condamner cela. En fait, moi, je pense que c'est la réaction qu'on doit avoir. Cela peut nous arriver, mais il ne faut pas laisser les choses s'installer, mais les condamner avec fermeté. Et ensuite, le Seigneur va nous délivrer totalement.
Amen. Donc, le passage dit, soumettez-vous à Dieu. Donc, notre liberté, nous devons la soumettre à Dieu. Donc, on est libre, mais toi-même, tu choisis que Dieu s'impose sur cette liberté-là. Donc, tu dis à Dieu, je suis libre, mais dans ma liberté, je te choisis comme chef. Je veux me soumettre à ce que toi, tu veux. Et c'est ainsi que, en résistant au diable, nous serons vainqueurs. Voilà. Donc, c'est ça, les œuvres. C'est très important, cette notion, parce que ça permet les bonnes relations entre frères et sœurs. On sait qu'on est sauvé par grâce. Ça permet aussi de compter sur Dieu pour produire de bonnes œuvres au lieu de compter sur nous-mêmes. Ça permet aussi de savoir rendre gloire à Dieu. Parce qu'on a dit, la crainte, un des conseils, c'est que les œuvres ont tendance à vouloir produire l'orgueil. Et donc, apprenons à chaque fois que nous faisons de bonnes œuvres à nous rappeler que ça vient de Dieu. Voilà, apprenons ça, que ça vient de Dieu. Nous sommes l'ouvrage du Seigneur, Éphésiens 2:10 nous le dit, nous sommes l'ouvrage du Seigneur sauvé pour pratiquer les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Donc c'est ça le processus, grâce, foi, bonnes œuvres préparées par Dieu. Donc, raison de plus pour dire, c'est Dieu qui produit tout cela, parce qu'il a même préparé ça. Non seulement il le produit, mais il l'a préparé. Donc, un chrétien qui dit, moi, je n'ai pas d'œuvre parce qu'on est sauvé par la foi, il est dans l'erreur parce qu'Éphésiens 2, 8 à 10, Dieu nous dit, Dieu a préparé des œuvres pour que nous les pratiquions. Mais ça vient après la foi. Et que Dieu soit béni. Et donc, nous devons faire attention à tout ce qu'on peut brandir comme don, comme puissance, qu'on aurait eu avant d'être chrétien. Si on avait des choses avant d'être chrétien, surtout des choses spirituelles, nous devons y renoncer. Si avant que tu sois chrétien, tu faisais des rêves prémonitoires, avant que tu sois chrétien, tu disais une chose et la chose s'accomplissait, avant que tu ne sois chrétien, tu pouvais bénir les gens et ils se retrouvaient avec des choses. Bref, tu avais un don surnaturel. Quand tu deviens chrétien, tu dois considérer que ce don-là, il n'était pas de Dieu parce qu'il était surnaturel. Il était spirituel parce que les œuvres viennent après la foi. Quand on a cru en Dieu, on a reçu une nouvelle nature. C'est là que les œuvres préparées de Dieu se manifestent clairement. Je parle des œuvres surnaturelles, spirituelles. Donc, tous ceux qui avaient ces genres de vision, ces genres de puissance, avant d'être dans le Seigneur, doivent dire, je renonce à ça, parce que ce n'était pas de Dieu. Comme ça, ils peuvent recevoir ce que Dieu a prévu pour eux totalement. Donc, c'est important de se souvenir de ça, parce que beaucoup de chrétiens ont traîné des esprits qu'ils avaient autrefois, parce qu'ils n'y ont pas renoncé, parce qu'il leur donnait une certaine puissance et ils ont considéré que c'était un don qui venait de Dieu. Non. Donc, faisons attention à cela, parce que là, il est écrit que Dieu a préparé des œuvres pour nous. Nous n'avons pas à forcer, nous avons qu'à avoir foi en lui et ces œuvres-là vont se manifester. Ne cherchons pas à conserver des choses à tout prix, parce que ça nous rendait célèbres ou ça nous donnait des honneurs. Donc, restons humbles et acceptons de recommencer à zéro avec le Seigneur. Il nous donnera de bonnes choses qu'il a prévues d'avance pour nous. Oui.
Oui, par rapport aux œuvres, quand tu expliques des choses qu'on avait dans le passé et qu'il faut les abandonner, il y a aussi l'effet inverse, c'est-à-dire que le Seigneur, en tant que chrétien, nous donne des œuvres à produire dans la moisson et on y refuse de le faire. Ça, c'est quoi alors ?
Ça, c'est quoi ? C'est la résistance et la rébellion. C'est la résistance. Voilà, c'est la rébellion, c'est la désobéissance. Oui. Mais souvent, les chrétiens ont mis ça sous le compte de l'humilité. Ah, moi, je ne veux pas de responsabilité. Ah, moi, je ne veux pas de problème avec les gens. Je préfère rester chrétien simple. Ça donne l'impression que c'est l'humilité. Non, c'est le refus de faire la volonté de Dieu, tout simplement. Voilà. Il y en a aussi qui disent, ah, moi, tel que je me connais, si je commence à servir Dieu, je risque de tomber dans l'orgueil, je risque de tomber dans ceci. Mais non, mais donc là, tu sous-estimes la capacité de Dieu qui peut maintenir quelqu'un dans la vérité, dans la puissance, dans l'humilité aussi. Parce que c'est écrit dans Jude 24, à celui qui peut vous préserver de toute chute. Donc quand nous croyons en Dieu, nous croyons aussi qu'il est tout puissant pour nous garder purs jusqu'au bout. Donc tous les arguments qu'on utilise pour dire « je ne veux pas servir Dieu à cause de ceci, à cause de cela », c'est une façon de dire « Dieu est incapable de faire ce qu'il a prévu ». Voilà. Oui.
Mais par rapport au don que quand on a, avant qu'on soit en Christ, qu'on doit abandonner, enfin, qu'on doit renoncer quand on arrive en Christ, est-ce que, enfin, on ne peut pas prendre en compte le fait que les dons et les appels de Dieu sont irrévocables dans le sens où on est déjà prédestiné à avoir ce genre de don et même si on n'est pas en Christ.
Ça... Ah non, non, il faut. On a dit, c'est Éphésiens 2:8. Hein. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Nous sommes l'ouvrage de Dieu créé en Jésus. Donc cet ouvrage-là commence en Jésus. Donc avant Jésus, ce n'est pas l'ouvrage de Dieu. L'ouvrage de Dieu créé en Jésus pour produire les bonnes œuvres préparées d'avance.
Et dans le cas inverse, dans le sens où des personnes sont en crise, du coup, ils reçoivent les dons de l'Esprit, mais... ces personnes-là, ils quittent le domaine de Jésus, mais leur don reste en fait. Enfin, ou du coup, c'est pas.
C'est plutôt les démons qui vont utiliser ce don-là. Mmh. Oui, oui. Ils vont continuer à recevoir des choses, mais manipulées par les démons. Okay. Oui, oui.
Pasteur. Jérémie 33:3 nous dit « Invoque-moi et je te montrerai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Mais il arrive que quand on est chrétien déjà, on peut avoir un rêve ou un songe, mais qui se réalise. Est-ce qu'en ce moment-là, on va dire qu'on a été possédé par un mauvais esprit ou on peut dire que c'est le Seigneur qui a montré quelque chose parce qu'il arrive quand... qu'on fasse des rêves et souvent ces choses se réalisent.
Ah mais oui, mais nous, on n'a pas refusé les rêves. On a dit tout simplement, si tu les avais avant d'être chrétien, donc il faut renoncer à ça quand tu deviens chrétien.
Merci.
Voilà. Oui, il y a David devant là.
Oui, pasteur, une question... Quelqu'un qui vit dans le concubinage, qui accepte le Seigneur, qui manifeste des dons. D'où viennent ces dons-là?
Alors, il faut commencer par lui dire que Dieu te montre que tu dois te quitter cet état-là. Donc, moi, je ne veux pas polémiquer sur d'où viennent ces dons, parce qu'on ne sait jamais. Mais je préfère être prudent avec une telle personne. Je préfère lui dire... que Dieu te montre d'abord que tu es dans le concubinage et là, on discutera après. Voilà.
Par exemple, les songes, tout ça, là, ça se concrétise. Ça vient d'où?
Mais c'est ce que je dis. Donc, je ne peux pas, parce que je ne suis pas Dieu, je ne peux pas dire à 100% que ce n'est pas de Dieu. Puisque comme la personne a eu un contact avec Christ, on ne sait jamais. Et dans, je préfère dire qu'il ne faut pas écouter cette personne, c'est tout. Il ne faut pas écouter cette personne, il faut être vigilant parce qu'on risque de se tromper. Mais dire qu'à 100% ça ne vient pas de Dieu, je ne peux pas le dire. Mais il faut qu'on commence par nous enseigner cette personne-là à lui dire, reviens à la parole. Toi, tu veux nous donner de l'avenir, mais toi, reviens à la parole. C'est ça, quoi. Donc, on a vu d'ailleurs, pour clôturer cette affaire des dons qu'on a avant Christ, Paul, dans Actes des Apôtres, chapitre 16, il était en train de travailler et il y a une dame qui prophétisait derrière Paul en disant, « Celui-ci est un vrai serviteur de Dieu, il faut l'écouter. » Est-ce que Paul a applaudi en disant, « Mais c'est la vérité, cette dame, Dieu l'utilise. » Ah non, Paul a chassé l'esprit qui était dans la dame. C'est pour nous dire que ce n'est pas parce que quelqu'un dit une bonne chose, même dire que, « Ah, toi, tu es un vrai serviteur de Dieu, l'esprit me parle. » Mais l'esprit, t'es pas, toi, tu es un païen, tu es un féticheur. Ah, mais non. Donc, ça, c'est de l'amusement. C'est de l'amusement. Paul a chassé l'esprit. Attention, souvent, nous, on se dit, « Ah, mais non, mais il a dit quelque chose de vrai. » Mais alors Donc, on ne peut pas maîtriser le monde spirituel. On ne sait pas ce qui se passe. Ce qu'on sait, c'est que nous, on a la parole. On doit juger en fonction de la parole. Cette dame-là n'était pas une enfant de Dieu. Elle commençait à dire, ça, c'est le vrai serviteur de Dieu. C'est le vrai serviteur de Dieu. Paul a dit, esprit de Python, tu sors. Et la dame a perdu tous ses pouvoirs. L'esprit est parti. Donc, ça montre que même les mauvais esprits peuvent dire des choses vraies. Mais c'est toujours un piège pour nous ramener à eux. Et quand Jésus chassait les démons disaient la vérité en disant, fils de Dieu, qu'est-ce que tu nous veux? Et lui leur disait, taisez-vous et sortez. Ce n'est pas à vous de piloter, de faire ma publicité. Taisez-vous et sortez. Donc c'est cela. Donc ce n'est pas, souvent on se trompe en se disant, mais ce que j'avais avant ne faisait que du bien aux gens. Où est le mal? Mais non, mais le mal, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Voilà, c'est tout simple. Ce n'est pas parce que ça donnait l'impression de faire du bien, mais le but final, c'est que les gens s'attachent à toi, s'attachent à, pas à Dieu lui-même. Donc, il faut voir toujours le but final de toute chose. N'oublions pas. Donc, bref, oui. Revenons à la simplicité du salut par grâce. Revenons à la simplicité. Il est écrit dans Jean 1, 17, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Oui.
Oui, par rapport à ce que tu dis, bon, je suis d'accord avec toi, mais la question, ça concerne l'appel de Jérémie. Parce que c'est vrai que quand le Seigneur lui a dit que lui, depuis le ventre de sa mère, il a été consacré. Donc du coup, comment...
Mais là, Jésus n'est pas encore là. Là, c'est une autre alliance.
D'accord.
Oui.
Je voulais aussi juste rajouter sur le témoignage de Frère David pour le monsieur qui prédit des choses, quoi, qui voit des choses et puis qui prédit c'est la réalité, et alors qu'il vit en concubinage. Moi, je veux dire que c'est aussi dangereux pour les gens qui ne connaissent pas vraiment encore Dieu, parce que cette personne ne montre pas l'exemple. Il est en concubinage, en même temps il sert Dieu, et en même temps, et soi-disant, il montre l'aspect positif de Dieu. Alors, ça va encourager les gens, les mâles, de faire la vie qu'il lui-même mène, parce qu'il lui-même vit en concubinage. Donc, c'est dangereux.
La finalité, parce que voilà. Les gens vont se dire, mais il est dans le péché, mais Dieu l'utilise, donc ça ne sert à rien d'être dans la sainteté avec Dieu. Donc, on peut toujours fonctionner avec Dieu dans le péché et puis et produire de bonnes œuvres. Quoi. Non, voilà. Donc, on doit faire attention. On ne peut pas dire à 100% qu'est-ce qui fait que la personne dise une telle bonne chose ou fasse une bonne œuvre. Mais on doit se dire qu'il y a un piège parce que la personne n'est pas conforme à ce que, au Dieu qu'elle est censée représenter. Voilà. Donc, nous nous arrêtons là parce que nous avons des répétitions à faire. Donc, c'est le point sur les œuvres. Bien-aimé, j'en parlerai toujours, puisque c'est quelque chose d'important. Ça tue beaucoup de gens, ça tue... Vous savez, il suffit que quelqu'un connaisse cette affaire-là de la loi et les œuvres, la grâce. Quand tu vas te retrouver dans une église, on te dit, les gens qui vont donner 10 000 seront bénis. Les gens qui vont... instinctivement, tu comprends que là, c'est les œuvres. Dieu sauve gratuitement. Il ne sauve pas en fonction de 10 000. Donc, tu n'as même pas besoin qu'on t'explique qu'il ne faut pas demander. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Si tu comprends la notion de œuvre et loi, œuvre, loi, grâce, directement, tu vas sentir que là, nous sommes dans les œuvres. Là, nous sommes dans la loi. Là, nous ne sommes plus dans la grâce. Tu vas le sentir. Et, vous savez, la grâce donne du repos. D'ailleurs, c'était le prochain mot. C'était le mot paix. La grâce donne la paix. Tu es tranquille. Mais les œuvres appellent toujours les œuvres. Tu as fait une bonne œuvre et il y a une voix qui te dit, mais demain, tu feras quoi? Et le lendemain, attention, le soir, tu dois faire encore. Hein? Donc, les œuvres ne donnent pas de répit. Tu es sans cesse à te dire, je dois faire encore quoi? Je dois faire encore quoi? Je dois faire. Donc, c'est pourquoi Nicodème, quand il est venu vers Jésus, il attendait, il était déjà docteur, il faisait déjà beaucoup de choses. Mais il attendait qu'on lui rajoute encore une chose. L'homme, c'est ce qui est curieux. L'homme aime faire ça. Donc, Jésus lui dit, calmos. Maintenant, c'est le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai le repos gratuitement. Bien aimé, moi, ça me pousse à faire. S'il faut fêter tous les jours la grâce, alors on va fêter tous les jours la grâce. Parce que. Non, quel repos! Tu es tranquille. Mais alors que les œuvres, bon, demain, tu feras quoi? N'oublie pas à 5 heures du matin. N'oublie pas à 11 heures. Et les œuvres, parfois même, tu veux manger un bon poulet, là, on te dit, ah, mais il y a des autres qui n'ont pas à manger. Donc, tu laisses. Les œuvres, ça va t'embêter dans tous les circuits. C'est qu'à un moment donné, on a mis le parfum sur le Seigneur et les gens disent, oh, mais il y a des pauvres, lui, il prend le parfum. Voilà. C'est ça, les œuvres. Les œuvres, ça ne donne pas de répit. Et quand tu en as fait beaucoup, ça va réclamer encore d'autres. Alors que la grâce, tu arrives au terminus, maintenant tu commences à sortir des bonnes choses. Parce que tu es déjà bien. Voilà, tu es bien. Ce n'est pas sous pression. C'est par amour, par reconnaissance que tu sors les choses. Tu es tranquille. Ce n'est pas parce qu'on te dira tu n'as pas fait ou tu as fait. C'est parce que tu aimes. C'est ça la différence. On doit aimer la grâce. Et quand tu es dans la grâce, tu vas remarquer beaucoup d'erreurs facilement parce que beaucoup d'erreurs tournent autour des œuvres. Beaucoup d'erreurs. Voilà, que Dieu nous aide à comprendre tout ça au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que tu nous aides à rester dans la logique de ta parole, à rester simple. Et à fêter la grâce chaque jour, afin que ça nous rappelle qui nous sommes, ce que tu as fait pour nous, et qui sont les autres, que nous puissions supporter les faibles, Seigneur, dans ton amour, dans ta bonté. Aide-nous, Seigneur, à nous concentrer sur ta grâce. Ça nous permettra, Seigneur, d'expérimenter le salut globalement, totalement, au nom de Jésus. Nous nous attendons à toi. Merci Seigneur de nous soutenir dans les répétitions que nous avons à faire pour préparer les 3 jours d'adoration. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Que Dieu nous bénisse.